Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Radio Grenouille est en ce moment en direct du 25 rue de la République en plein centre de Marseille. Nous sommes dans une épicerie éphémère ouverte pendant le mois de septembre, un projet porté par le restaurant Les Grandes Tables et par le fonds épicurien Provence. C'est un lieu multiple, à la fois épicerie qui rassemble une trentaine de producteurs locaux, mais aussi un lieu de radio avec trois émissions faites par Radio Grenouille, celle du 6 septembre, celle du 13 que vous pouvez évidemment retrouver sur le site Radio Grenouille et celle-ci que nous allons rester ensemble jusqu'à 19h30 ce soir. Mais aussi ce week-end, comme tous les week-ends du mois de septembre, le lieu se transforme en lieu plus festif avec deux soirées, les vendredis et les samedis soirs. Et ce week-end, ça sera Raph de l'émission Midi Stédigo qui sera au platine. Pour ce troisième plateau radio, donc assuré à la technique par Sébastien Gély et Emmanuel Morera à la production, nous allons aborder le sujet du produit, le choix du produit, sa valorisation, sa consommation et bien sûr, comme d'habitude, la gastronomie. Dans une interview au journal Libération datée de 2007, Carlo Petrini, militant et fondateur du mouvement Slow Food, rappelle le mot du poète paysan Wendell Berry, « Manger est un acte agricole » et il y ajoute « Produire est un acte gastronomique ». Trois valeurs ressortaient de la charte de ce mouvement, le droit au plaisir alimentaire, la défense de la culture des terroirs contre l'uniformisation des saveurs et la lenteur comme antidote à la frénésie, pour quelque chose de bon, de propre et de juste. Alors cette année, la fête de la gastronomie édition 2017, c'est du 22 au 24 septembre, de vendredi à dimanche. Donc le thème au cœur du produit que nous allons aborder pendant une heure et demie avec mes invités. Le produit, c'est sa sauvegarde, sa reconnaissance, ses appellations. On a pu en discuter la semaine dernière, notamment autour du label bio et sa valorisation après. Donc, derrière un produit, il y a évidemment une histoire et un travail, des producteurs, éleveurs aux chefs qui transforment par la suite, en passant bien sûr par les personnes qui commercialisent via des épiceries paysannes ou des circuit court par exemple, on en reparlera j'espère pendant 7 heures ensemble. Pour en parler avec moi jusqu'à 19h30, Christian Key, qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver, donc chef cuisinier et représentant du mouvement Slow Food à Marseille, Philippe Kahn, dépanier marseillais, fédération d'AMAP, une trentaine d'AMAP à peu près. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Alors, Laure de la bière parfaite aussi qui est avec nous et qui a ramené des bières que nous allons déguster tous ensemble pendant une heure. On espère que vous en profiterez avec nous. Donc, la bière parfaite qui est commercialisée depuis à peu près un an et demi, c'est bien ça?
Absolument.
Bonsoir et merci beaucoup d'être bonsoir. Là. Jean-Christophe Robert, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes fait partie de la filière paysanne. En un mot, pour résumer la filière paysanne, une association qui contribue à la sauvegarde de l'agriculture paysanne et qui... et qui a beaucoup d'actions, notamment celle d'ouvrir et des épiceries paysannes dans Marseille.
Entre autres, notre objectif, c'est de nous aider à prendre en main le destin de nos intestins.
Voilà. C'est joliment dit. Alors, il y a aussi parmi nous ce soir Max Clément des Champignons de Marseille, donc une champignonnière qui a ouvert pendant ce mois-ci juste en bas au sous-sol et qui tu vas nous en parler et aussi ça va ouvrir dans un autre lieu bientôt dans Marseille.
Espérons.
Merci à tous d'être là et Emmanuel évidemment qui est là. Merci Emmanuel, bonsoir.
Salut Margot.
Tu vas présenter cette émission avec moi. Donc on se retrouve tous ensemble après une petite pause musicale. C'est George et Ben, Bébé te vai bora.
Bébé te vai embora, pois já está na hora.
Bébé te vai embora,
bébé,
já está na hora.
Olha que o galo cantou, o sol vai raiar e você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Mas quem não chora não mama, e o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar.
Já não posso mais chegar atrasado, nem pensar em faltar.
Pois o novo gerente não é lá do meu amigo. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigos, novas sandálias pra você sambar. Bebete, oh Bebete,
Bebete, vamos lá.
Bebete,
hoje está na hora.
Vamos morar,
Bebete, vamos lá.
galo cantou e o sol vai raiar. Você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem, você minha mulher. Mas quem não chora não mama. O nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar.
Já não posso mais chegar atrasado, pensar em
voltar. Pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois como é que eu posso comprar estando a perigos novas sandálias pra você sambar? Bebete, ô, oh, bebete,
bebete, vai embora.
La serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation de l'ortolan. Et encore, il y en a qui sont bien plus forts que moi pour le déguster, ça j'en suis sûre. Parce que moi, j'en mange pas assez souvent quand même. Mais la serviette sert à cacher lorsqu'on a l'ortolan dans la bouche, parce qu'on a la bouche pleine de graisse, cet ortolan est très gras. Alors on a toute la graisse qui dégouline dans la bouche, et puis derrière la serviette, on peut se concentrer davantage, on peut se régaler, apprécier, déguster, vraiment voir ce qu'on a dans la bouche, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent et on veut en profiter au maximum.
Maïté, la dégustation de l'ortolan, vous connaissiez cet extrait, je crois, Max?
Bien sûr.
Alors nous, on ne mange pas de l'ortolan, mais on boit de la bière, de la bonne bière, ramenée par toi, alors. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table de cette bière, alors?
Alors, on est en train de déguster, elle est bonne, hein, elle est bonne.
C'est, qu'est-ce que tu dégustes?
Moi, je
Philippe,
déguste une parfaite Kölsch Steel Ale. Elle est délicieuse.
Et tu peux nous en dire un peu plus sur celle-ci, sur l'or?
La parfaite Kölsch Steel Ale, c'est la première bière qu'on a développée.
Approche-toi du micro, peut-être.
Mais bien sûr, je me rapproche donc du micro. Donc, la parfaite Kölsch Steel Ale, c'est la première bière qu'on a développée. C'est une bière de style allemand qui est traditionnellement brassée à Cologne et dont nous, on a donné une version marseillaise. C'est une bière où on travaille beaucoup la céréale, donc en l'occurrence l'orge et le blé. C'est une bière qui est assez douce, qui a de la longueur, de la rondeur et très peu d'amertume. Contrairement à ce que tu bois toi,
Emmanuel, toi amère,
qui hein. est extrêmement amère puisque c'est une IPA.
C'est la meilleure celle-là.
Alors tu n'es pas arrivée seule, tu as ramené deux houblons et du malt.
Bah oui, en fait, j'ai amené, bien qu'on soit à la radio, les matières premières qui nous permettent de faire la bière. Donc on a des maltes, en l'occurrence de l'orge ou
peut-être
du blé.
Peut-être essayer d'écouter un peu.
Ce ne sont pas des maracas, ce sont des céréales. Voilà. C'est-à-dire que les céréales sont trempées dans l'eau pour qu'elles commencent à germer, puis elles sont passées au four, plus ou moins fort, dans l'objectif de leur faire prendre de la couleur et aussi de donner un goût à la bière. Ça peut être caramel, ça peut être peut-être plus fumé. Ça... Enfin, voilà. Donc ça a une influence assez forte sur la bière. Ensuite, la deuxième matière première assez emblématique et qu'on récolte actuellement, c'est le houblon. Donc le houblon, à la base, c'est une liane. C'est une plante qui grimpe jusqu'à 8 mètres et qui donne des cônes qui sont plus ou moins longs, grands, selon la variété. Ça peut être des petits pompons ronds ou des triangles. Et en fait, le houblon, ça sert à amener de l'amertume à la bière ou des arômes, puisque ça peut vous donner des notes de pommes, d'épices, d'herbes coupées, voilà. Et ça a une autre vertu assez importante pour la bière, c'est que c'est antiseptique.
Tout à l'heure, dans l'introduction, Margot, tu citais Carlo Petrini, hein, Slow Food, il disait « manger est un acte agricole ». Ça tourne dans ma tête, j'ai du mal à bien comprendre cette phrase. Philippe, comment tu la comprends, cette phrase « manger est un acte agricole » ?
Manger est un acte agricole, manger est un acte social, manger est un acte politique. Enfin, on pourrait le décliner sous beaucoup d'aspects. C'est tellement important de manger et de bien manger. Je pense que c'est pour ça qu'on est là tous autour de nos micros ce soir, parce qu'on estime que c'est important et de manger bon, de manger sain. Et voilà.
Jean-Christophe, comment tu l'entends, toi, ce manger est un acte agricole?
Ah ben, ça me parle énormément, en fait. Manger, effectivement, c'est faire un choix par rapport à l'agriculture que j'ai envie de faire vivre quand je remplis mon assiette. Et en fait, moi, j'ai tendance à penser qu'à chaque fois que l'on mange, En fonction de ce qu'on met dans notre assiette, on change le monde. Et soit on fait le choix de le changer plutôt dans l'optique d'une agriculture paysanne familiale, soit on fait le choix plutôt de le changer dans l'optique d'une agriculture de capitaux. Donc effectivement, manger est un acte agricole, c'est sûr.
Et un acte politique.
Donc alors, de fait.
Alors pour le coup, j'ai une question alors, parce que donc, du coup, quand je bois la bière, rappelle-moi le nom de la bière, excuse-moi.
La bière parfaite,
ouais, voilà. Qu'est-ce que je fais comme choix ?
Tu fais le choix du bio, le choix du français, le choix de la qualité. Voilà. En fait, on n'utilise que des malts français et des houblons qui sont alsaciens. C'est un choix dès le départ, c'est pas une contrainte, c'est un cadre qu'on s'est fixé dans lequel on peut évoluer et aussi s'amuser. Mais on voulait relocaliser cette partie économique de l'achat de nos matières premières et démontrer qu'avec ce qui se produit en France, on peut faire une très bonne bière et notamment une IPA. On n'est pas obligé d'aller prendre des houblons aux États-Unis. Ça peut se faire en single hop français.
Max, vous êtes un peu dans la même démarche avec les champignons de Marseille. C'est le côté local qui prime d'abord. Et pourquoi les champignons, finalement, de Marseille, à part un anti-parisianisme?
Nous, on est d'abord là pour recycler des déchets, au départ, quand même. Donc, vu qu'on fait pousser les champignons sur du marc de café, l'objectif, c'était d'abord de revaloriser de la matière organique. Après, on a de la chance, c'est qu'on peut produire des champignons. Pardon, faut que je sois plus près.
Oui, ouais. Plus près, ouais.
Après, on n'a pas trop le choix d'être local, nous. C'est-à-dire qu'ils sortent en quelques jours dans nos caves et après, il faut absolument qu'on les écoule. Donc, je ne vais pas m'amuser à les envoyer ailleurs en Europe. Voilà. pour moi, c'est un peu ce que tu disais, Jean-Christophe. C'est ça. C'est que moi, je suis un amapien, par exemple. Pour moi, l'argent que tu dépenses, il est facile. C'est du lobbying, ce qu'on fait. Enfin, moi, je fais du lobbying avec ma petite bourse, quoi. Donc, acheter des choses qui sont produites autour de chez moi, chez des gens que je connais, je trouve ça vachement important. Et mes champignons, je vais les vendre qu'à Marseille aussi, dans cette même logique, quoi.
Christian Key, vous venez de nous rejoindre. Bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef et vous utilisez beaucoup et en priorité des produits locaux. Alors peut-être que je vous passe le micro un peu.
Oui, bonsoir. Sur les produits locaux, pour moi, c'est un mode de vie, en fait. C'est descendre le matin sur le port. C'est des rapports humains. C'est vivre sa ville. C'est avoir des bons produits. Et c'est aussi un acte politique, du coup. Mais c'est aussi un choix, quoi, un choix sur la qualité, un choix aussi poétique de pouvoir voir des poissons dans les bagues, vivants, discuter avec les pêcheurs. Donc voilà, c'est avant tout un choix de qualité de vie, de ne pas pousser un caddie dans un supermarché, de s'amuser aussi de son travail.
Et tu vois, on a beaucoup dit que c'était un acte politique, mais en fait, acheter un produit local aussi, il est, au niveau nutritif, il est bien meilleur. Je veux dire, tu achètes un produit bio qui pousse dans notre région, ben il est bien meilleur, il a des qualités nutritives nettement supérieures que si tu achètes du bio qui vient, je ne sais pas, du Brésil, de l'Argentine ou de n'importe où. Tu vois. Donc, c'est important que le produit qu'on achète, il ne voyage pas. Les produits qu'on achète localement, enfin, que ce soit tes champignons, que ce soit des produits de maraîchers locaux, ils poussent ici.
C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans des containers pendant 3 jours au frais, c'est ça. Ouais.
Ça fait rebond sur ce que tu disais, Jean-Christophe, parce que tu disais le destin de mon intestin. Hein, tu as dit ça, je prends soin du destin de mon intestin. Alors,
prends en main le destin de mon intestin.
Je prends en main le destin de mon intestin. Quoi. Alors je me disais, tiens, voilà, une approche très, disons, presque médicale, non, tu vois,
un peu du plutôt organique. Hein.
Organique, non.
Et on peut l'entendre comme ça.
Parce qu'il y a plusieurs dimensions, quoi. Il y a la dimension, comme tu dis, vivre sa ville, tu vois, descendre, rencontrer des gens, et ainsi de suite, quoi. Mais se surajoute une autre dimension, qui est la dimension, le produit est mauvais, et donc je vais pour un produit de qualité, mais mauvais pour mes intestins, quoi, disons. Et puis il y a la dimension le produit là qui circule, il fait le tour du monde et tout, ça pollue tout ça, et il y a toutes ces dimensions donc qui se superposent. Alors je sais pas, j'ai l'impression, puisque tu as mis en avant le destin de mon intestin, que je sais pas, comme si c'était pour toi, Jean-Christophe, non, d'abord ta première préoccupation, non, la qualité, presque la qualité des produits du point de vue de la santé, quoi, même.
Alors déjà, je préciserai qu'un intestin, étymologiquement, ça vient de l'intestus, c'est-à-dire ce qu'on a dans la tête. Et on dit aussi que notre ventre est notre deuxième cerveau. Donc ce que je mets dans mon ventre, quelque part, c'est ce que je mets aussi dans ma tête. Et c'est ce que je mets dans mon âme, dans mon être. Donc, il y a un côté médical, on peut l'entendre comme ça. Moi, j'y vois plutôt un côté charnel, un côté vraiment, on est fait de chair. Et c'est important de bien comprendre que cette chair, elle vient de la terre et qu'elle y retournera d'ailleurs. Donc, du coup, avoir un lien qui soit positif, un lien qui soit effectivement le plus nutritif et le plus sain possible, ça me paraît être une base essentielle. Après, c'est pas forcément toujours simple. On fait ce qu'on peut, on s'arrange aussi avec quelque part un monde qui est ce qu'il est, avec lequel on fait des compromis. Je pense qu'il est important d'essayer que ces compromis, quelque part, nous amènent à être dans le progrès permanent. Et sur l'agriculture biologique, par exemple, comme tu en parlais, Philippe, c'est vrai que dans la bio, il y a aussi des choses qu'on peut encore faire progresser, le côté local, effectivement, la dimension sociale. On a vraiment besoin, je pense, de réfléchir autour de la table qui nous rassemble, parce que l'alimentation a toujours fait société, hein, depuis le néolithique, depuis les premiers chasseurs, et de voir comment, effectivement, cette alimentation peut nous aider à repenser l'économie, le monde, nos relations. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour faire de l'éducation populaire entre nous tous, et on en a grand besoin de façon collective.
On en reparlera sans doute, le sujet est vaste, le sujet politique. On va faire peut-être une pause musicale, et puis après, Emmanuel nous amènera au cœur de l'épicerie, justement, qui nous entoure, et au cœur du produit.
Drip amber rays of sun, the sweetness that is you. Honeycomb, and I in a humble bee that brings the pollen to your gilded lips. Without a doubt, before the morning comes, I dream a bit of you. Honeycomb, and several languid thoughts will surface like honeydew drops forming new. And I will feel compelled to say, honeycomb, honeycomb, honeycomb. With fickle majesty, your whims are always met. Honeycomb, and I the lucky fool in courtly dress, but the jokes are all on me. And I'm reminded of your words.
All the stars burning in the sky, stars burning in the sky. How can anyone see just why?
Honeycomb, honeycomb, honeycomb.
Oh,
Alors, je crois qu'on va aller un peu parler, effectivement, produits, n'est-ce pas, Margot? Mais avant de me promener avec Alex, et je crois qu'il voulait me parler du pain qu'il y a ici à l'épicerie, j'avais une question pour Christian, puisqu'on va parler produits. Je voulais savoir un peu, Christian, qu'est-ce que tu entends par toi, le mot produit? Est-ce que c'est un mot que tu manipules? Est-ce que c'est un mot que tu emploies? Qu'est-ce que tu entends par produit?
Moi, produit, c'est un mot qui me dérange, en fait. Je trouve que la relation aux êtres vivants, que ce soit végétal ou animal, on ne devrait pas le penser en termes de produit. On devrait essayer de les comprendre, voir de quoi ils sont faits, quels sont là. Quand on parlait un peu de santé ou de spiritualité ou d'énergie, des choses, on devrait plutôt avoir... en tout cas, en tant que cuisinier, j'essaie d'avoir ce regard sur un peu neuf, ou de découvrir moi-même qu'est-ce que c'est que cette plante, qu'est-ce qu'elle amène. Et voilà, et pas de le penser en termes de produit, et du coup aussi non plus d'un résultat d'une production humaine, forcément. Ça peut aussi des choses qu'on glane dans la nature. Alors tout ça, l'humanité s'est construite, la nature s'est construite aussi dans ces interactions qu'on a avec la nature. Je pense notamment à un bouquin qui est assez intéressant sur ce sujet, qui est de Jared Diamond, sur l'inégalité des sociétés, qui nous explique bien comment les interactions se sont faites en termes agricoles, et comment les plantes et les espèces ont interagi sur la planète. Et donc, le terme de produit, c'est pas quelque chose que je veux pas utiliser ce terme-là, et plutôt essayer d'avoir une vision plus de creuser un peu l'œil qu'on peut avoir sur les choses et se poser quelles sont leurs qualités. Ça peut être un poisson, notamment je travaille pas avec les poissons, mais de regarder. Je développe une relation, on va dire intellectuelle, avec une anthropologue, par exemple, qui travaille sur la question de la bonite et en fait, c'est des peuples de mer qui ont une relation très intime avec les poissons, et dont ils connaissent des pans incroyables de leur énergie, de leur force, ils redéfinissent un peu ce que nous on n'a pas su ou regardé parfois sur ce que sont la puissance d'un animal. Par exemple, l'orphie c'est une flèche. Ouais, l'orphie c'est une flèche. Alors si vous regardez une orphie dans l'eau, elle va se cerquebouter et ensuite disparaître parce qu'elle a une puissance comme ça de tension. Une rapidité. Donc après, qu'est-ce que j'en fais en cuisine, etc. C'est autre chose, mais en tout cas, j'ai essayé de creuser un peu, revoir les choses. Je pense que au-delà des lunettes qu'on a l'habitude de poser.
Alors, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je sais pas, j'entends comme deux choses, tu vois. Parce que lorsqu'on parle produits, je fais avec Alex et puis je dis on va chercher les produits un peu dans l'épicerie. Bon, moi, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai produit, je suis allé chercher quelque chose d'emballé, non? Bon, on pourrait le faire aussi avec la bière et la bouteille, son nom et ainsi de suite. Donc, je suis allé sur effectivement le produit, quelque chose de fini, d'emballé, comme ça et tout. Alors que toi, tu es en train de me dire, attends, c'est le produit, c'est quelque chose de vivant, ça bouge, c'est pas fini, c'est mouvant, c'est instable. Et puis, une deuxième chose, tu me dis aussi c'est un partenaire, quoi. Ah, c'est un partenaire, c'est quelqu'un avec lequel on compose. Alors, et Alex, Max, il a amené donc le pain. Alors, il y a deux choses. Il y a là le produit ce que j'ai ramené, donc emballé, et il y a le pain qui n'est pas emballé. Et j'ai l'impression qu'il y a comme deux visions, non, du produit possible, là.
Non, mais déjà, là, on est sur des produits, parce que là, il y a eu une transformation par l'homme, donc de la farine ou un pain, et donc il y a eu un acte qui a été posé. un acte humain, d'une réflexion qui date de plusieurs centaines d'années. Comment on va moudre des blés, d'où viennent ces blés, tout ça. Donc là, on peut, il y a une histoire quoi, qui est reliée à l'homme et à la nature. Mais quand je parle de plantes ou de poissons ou d'animaux, là, on est sur d'autres êtres.
Donc, j'en rajoute un. Donc je rajoute la bière qui est dans un emballage hein, qui s'appelle Parfaite. Elle s'appelle Parfaite. Elle est blanche, mais elle a un nom. Elle s'appelle Parfaite. Donc, c'est une bière qu'on a goûtée tout à l'heure, qui est à côté donc de la farine, c'est ça, qui est dans un emballage particulier, et le pain qui n'est pas dans un emballage. Bon, c'est quand même trois choses différentes. Par-delà le fait que ce soit de la bière, de la farine et du pain, non?
Ouais, je sais pas, ouais, il y a un packaging qui retient, il y a un contenant et un contenu, et voilà, donc, mais ça change pas que derrière, pour moi, souvent d'ailleurs, un boulanger ou des gens qui font de la bière ou céréales, c'est comme des cuisiniers pour moi, ils travaillent sur le goût, ils recherchent, donc on est déjà sur quelque chose d'élaboré par l'homme, quoi, et donc là, peut-être qu'on peut parler d'une production, donc d'un produit.
Non. La bière, en l'occurrence, est effectivement élaborée d'une certaine manière par l'homme, à l'occurrence un brasseur qui choisit ses matières premières, mais il y a quand même, et surtout, l'intervention des levures, les micro-organismes qui créent l'alcool, qui créent le goût, qui créent les bulles, et un brasseur sans levure ne fait rien. Il faut quand même le rappeler. C'est un peu aussi comme le pain, je pense.
Ou si tu veux, c'est comme un peu aussi les légumes de nos maraîchers. C'est-à-dire les légumes, il faut quand même... S'il n'y avait pas de maraîcher derrière, il n'y aurait pas de légumes. Tu vois, il est obligé quand même d'y mettre quelque chose pour arriver à ce que ça pousse, pour arriver à ce que ce ne soit pas attaqué par des nuisibles, pour arriver à ce que ça donne un produit. Enfin, je ne sais pas si effectivement le terme de produit correspond, mais que ça donne quelque chose de bon et de sain. Il y a quand même la main de l'homme derrière le maraîcher. Il doit exister pour arriver à ce qu'on ait des légumes et des fruits.
Ouais, non, mais je ne rejette pas. Au contraire, hein, je salue le savoir-faire des hommes, des femmes qui sont derrière ces productions. Mais je pense qu'il y a aussi, notamment sur des produits bruts, hein, sur les produits bruts, il y a un regard... c'est intéressant de pouvoir avoir un regard sur... autre que gustatif, sur la puissance des plantes, leur façon de l'architecture, des choses. Voilà, je pense qu'il y a de la magie.
Non, mais je suis d'accord avec ce que voilà. Tu dis. Quand tu manges, ouais. Quand tu as une tomate devant toi, qui est une tomate qui a été sans produits chimiques, sans rien du tout, qui a un goût extraordinaire, qui a une forme souvent aussi extraordinaire, c'est quand même c'est formidable. Et à voir, et à regarder, évidemment, à manger aussi, c'est plus qu'un produit, quoi. C'est extraordinaire, quoi. C'est vrai.
Si vous me permettez d'intervenir, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que j'entends de façon très forte dans ce qui est dit autour de cette table et qui me parle également beaucoup. C'est qu'un produit, comme tu dis, c'est aussi un être vivant. C'est avant tout un être vivant. Et que c'est parce que c'est un être vivant qu'effectivement, il m'apporte de la vie quand je m'en nourris. Et donc, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir un produit qui a été déjà quelque part cultivé ou élevé, donc produit, puisqu'il y a quand même un acte de production, ou alors qui a été produit par la nature de manière spontanée en dehors de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas simplement que l'acte agricole hein, qui permet de se nourrir. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a eu toute une maturation, tout un cheminement vers le fait qu'il s'agit bien d'un aliment qui est encore vivant et que quand je le mange, cette vie elle est là et c'est ça qui va faire qu'effectivement je vais pouvoir en retirer de la santé. Si on part sur des produits qui ont fait trois fois le tour du monde et qui ont vécu des heures et des jours dans des containers frigorifiques qui n'ont pas été cueillis à maturité par exemple, donc pas au moment où cette vie était arrivée à son seuil optimal, c'est sûr que ce qu'on va manger va beaucoup moins nous nourrir et beaucoup moins nous permettre de pouvoir assurer cette vie qui est la nôtre.
Mais vous voulez rien me dire sur le packaging quoi? Je voulais rien me dire sur le fait que malgré tout, moi, je rentre dans une épicerie et j'ai quelque chose qui est emballé, quoi. J'ai un packaging. J'ai aussi quelque chose qui a un discours en plus qui s'ajoute à ce qu'il est, quoi. Non,
ouais, non, mais après, on peut parler de design et de tout ça qui est amené de la beauté, sur cette bouteille de bière, la couleur, le fait qu'elle soit sombre pour pour préserver cette bouteille, le transport, tout ça. Donc voilà, il y a, de l'ingénierie, des gens derrière qui ont dessiné quelque chose. Moi, ça peut me toucher, hein, cette beauté-là de fait par, l'homme. Hein, je vais pas le renier. Hein,
et puis il y a du pratique aussi. Hein, c'est difficile de transporter de la bière si t'as pas une bouteille quand même. Donc t'es obligé à un certain moment quand même d'avoir, du packaging pour pouvoir transporter ce qui n'est pas transportable autrement, quoi.
Il y a, je me souviens, je ne sais pas, quand on va du côté du vin naturel, par exemple, le nom des vins, ça devient tout autre chose, quoi. C'est un autre, la manière de nommer ces vins, d'un seul coup, il y a un jeu. Bon, et bière parfaite, c'est quand même là aussi un jeu. Donc, il y a... Ça m'interpelle, quoi. Pourquoi la nomination, elle est aussi contre-pied, elle est aussi pirouette, elle est aussi...
En l'occurrence, nous, on a appelé nos bières parfaites parce qu'elles sont participatives. Dans la mesure où on avait choisi les styles de bière qu'on voulait brasser, qu'on en a fait des variations, en mettant plus ou moins l'accent sur des goûts ou la taille de la bulle ou l'amertume, qu'on a fait déguster ça à 300 personnes et qu'en fonction de leur retour... on a choisi de se fixer sur une recette particulière. C'était dans une démarche de découverte de la bière artisanale, de recevoir enfin, un avis sur ce qu'on avait pu faire, d'interagir avec les gens. Voilà, donc la participation a fait la perfection supposée de nos bières, mais qu'on espère démontrer quand vous la décapsulez, que vous la buvez. Voilà. Après, sur le packaging et le choix de la bouteille, nous, on avait envie vraiment que ce soit une bouteille particulière et belle. On voulait faire un bon breuvage, présenté dans un joli contenant qui satisfasse aussi bien l'œil que le nez, que l'oreille quand on l'ouvre. Enfin, on voulait quelque chose de complet, une expérience globale. Donc, on a pris une bouteille un peu particulière. Et après... il y a nécessairement aussi une dimension un petit peu marketing pour attirer le regard du client qui, quel que soit l'établissement dans lequel il se rend pour acheter, que ce soit une bière ou un autre produit, se retrouve face à différentes marques. Et donc, il faut un peu aiguiser son intérêt. Donc, on s'est dit qu'un nom un peu provoquant et de l'élégance et de la sobriété, ça pourrait nous ramener des clients.
Mais ce qui nous intéresse, à mon avis, qu'on soit filière paysanne ou qu'on soit panier marseillais, c'est de faire du bon. Tu vois, donc à la limite, peu importe le packaging, nous ce qu'on veut faire, c'est du bon et du sain. Enfin, pour que ce soit bon pour l'intestin ou bon pour la tête, ce qu'il faut, c'est que ce soit du bon produit, qu'on apprécie, qu'on aime manger, qu'on savoure et qu'on se régale avec, quoi. Et je pense que ça, c'est le point commun entre nous tous un peu autour de la table, quoi.
Je pense qu'effectivement, la question de ce qu'il y a à l'intérieur du packaging est bien sûr le plus essentiel. Mais malgré tout, c'est vrai que le packaging, si tant est que ce terme soit forcément le meilleur, en tout cas la façon dont on va emballer le produit, est très important. C'est-à-dire qu'en fait, il révèle le rapport qu'on a à notre aliment. Si je prends par exemple le cas de la bière, les Vikings, ils buvaient la bière dans le crâne de leur ennemi. Ça montre qu'ils ont un rapport guerrier au monde. Je connais un certain nombre de tribus qui, par exemple, mettent leur aliment dans de la feuille de bananier parce que c'est un autre rapport qu'ils ont aussi avec le monde, qui est un rapport lié plutôt, non pas à la guerre, mais à la nature. La société industrielle qui, effectivement, emballe d'une manière extrêmement artificielle, extrêmement, quelque part, aseptisée et finalement un petit peu mortifère. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on met du plastique, on met de la toxine, on met des choses qui sont issues de la pétrochimie, montre aussi le rapport qu'on a. Et donc, la façon dont on va, par exemple, travailler sur l'emballage rack aujourd'hui est un élément qui montre que la société a envie d'évoluer dans son rapport à l'aliment au travers de l'emballage qu'il y met autour. Parce que c'est une façon de mettre en scène et c'est une façon aussi d'indiquer sa propre identité face à l'alimentation.
Moi, ça me faisait penser à un outil de concurrence un peu, tu vois, parce que je vois par exemple les bières, tu vois, il y a une concurrence de dingue, tout le monde commence à faire de la bière. Si tu vas dans un magasin de bière, il y a 300 articles, donc t'es un peu obligé de faire, t'es un peu obligé quand même de bosser ton packaging pour que ta bière elle ressorte sur une étagère ou la farine, là, elle a pas quand même n'importe, c'est pas le paquet Monoprix farine bio, quoi, tu vois, donc c'est quand même. Et quand tu vas au bar à vrac, s'ils vendent 5 farines différentes pour choisir, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire faut quelqu'un qui t'explique ce que c'est que le produit, sinon tu vois juste. Moi, je regarde le prix, par exemple. Je vais pas forcément, si tu m'expliques pas exactement. Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Faut le sucer un peu plus. Voilà.
Bon, j'ai goûté avec le doigt.
Ah ouais. Voilà.
Mais là, ça m'amène à parler d'autre chose. Le packaging, c'est aussi, la bouteille, le contenant, c'est aussi un vecteur de communication avec le client ou le futur client, où on peut expliquer des choses, où on peut aussi mettre en valeur un label AB éventuellement, où on a des obligations légales, nous dans la bière, mais d'autres producteurs aussi, j'imagine. Et après, on peut expliquer, se présenter, mettre en valeur une démarche. Et c'est un outil de communication. Si vous regardez par exemple la tablette de chocolat, le premier prix, c'est du plastique autour, c'est tout simple, on voit rien. Quand c'est du bio équitable, c'est écrit à l'intérieur, c'est un roman, quoi. Vous grignotez la tablette de chocolat pendant que vous avez lu l'histoire des producteurs qui l'ont faite.
Le packaging fait pas tout. Tu vois, par exemple, au panier marseillais, on distribue cette bière. Les gens, ils s'en fichent complètement de savoir que c'est une bouteille qui soit verte, bleue, jaune ou rouge. Tu vois,
c'est parce que je leur raconte mon histoire. Ils n'ont pas besoin de lire l'étiquette.
Exactement. Mais pourquoi ils commandent ta bière?
Il est là quand finalement personne n'est là pour accompagner ou apporter le produit.
Nos adhérents, nos consommateurs du panier marseillais, pourquoi ils commandent ta bière? Parce qu'elle est bonne, quoi. Parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est bio, parce qu'ils savent qu'ils ont un bon produit.
Bah non, parce
mais ils s'en fichent complètement de savoir que c'est une bouteille qui soit bleue, verte ou rouge, tu vois.
Ouais, je suis pas d'accord. Hein. Je pense que, enfin, je les connais pas, hein, mais pour moi, le packaging, c'est, il y a de la beauté.
Bien proche des micros, Christian.
Je veux dire, amenons de la beauté aux choses. Je veux dire, là, je sens cette bouteille, Christian, elle est hyper fraîche. Je la tiens, elle tient dans la main. Voilà, c'est un. Après, est-ce qu'il y a cette intelligence par rapport à la question de l'environnement, tous ces trucs-là, voilà, j'imagine tout ça aussi. Voilà, un beau produit aujourd'hui qui évolue dans la société, qui est-ce qu'elle a cette bouteille, est-ce qu'elle a sa place là? Moi, je la trouve, j'ai envie de la boire cette bière et je pense qu'il faut pas nier. L'intelligence des gens qui nous amènent sur des... On est sur une société qui réfute la voiture, mais même dans le dessin d'une voiture, y a une beauté, il y a une touche humaine, et j'espère qu'il y aura toujours cette touche humaine dans les produits qu'on manufacture, même manufacturés, et qu'il y a un designer, un artiste derrière qui sera fier d'avoir sorti ce... Voilà, et nous on le connaît peut-être pas forcément. Il y a peut-être qu'il y a marqué la marque une marque automobile, mais derrière il y a des gens, et je trouve ça important qu'il y ait des gens derrière.
Voilà, je te remercie vraiment de mettre un coup de projecteur sur la bouteille et les étiquettes, parce que nous on a eu à cœur vraiment d'aller travailler avec. Des graphistes de qualité qui sont à Marseille. Celle-ci, c'est un des premiers graphistes avec qui on a travaillé. Et maintenant, on est avec une agence qui est à 300 mètres d'ici, à Sadi Carnot, qui s'appelle Tu l'as vu. C'est des créatifs, c'est des gens qui sont aussi exposés dans des galeries. Et pour nous, c'était vraiment important que ça soit beau, en plus de bon, et bon dans les deux sens du terme, que ce soit gourmet, que ce soit aussi le plus sain possible pour les gens qui allaient boire notre bière.
Alors Maxime nous a apporté quand même du pain, donc... On peut quand même un petit peu parler de ce pain, et que tu peux peut-être nous dire pourquoi tu as choisi ce pain-là.
Alors, j'ai choisi ce pain-là parce qu'il est apporté tous les matins, enfin il est livré tous les matins pour une boulangerie qui est au 77 avenue de la Corse, chez Dame Farine, qui est une super nana qui fait son pain à la main, de manière artisanale, qui fait ses levains elle-même, qui travaille qu'avec de la farine bio, et qui fait... qui trouve des farines qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce et qui sont assez, je pense, de très grande qualité. Et donc, on est assez fiers de vendre son pain ici. Et pour vous donner une idée, il est tellement bon qu'on n'arrête pas de se faire recommander. Enfin, les gens mangent, je mange à table et nous demandent du pain. Et je n'arrive pas à adapter mes quantités. À chaque fois,
Goûté la bière, mais on n'a pas encore goûté le pain, nous. Hein.
Ouais, vous n'avez pas encore goûté le pain, mais ça viendra tout à l'heure avec Emmanuel Perraudin qui vous fera des petits plats. Et comme il y a plein de plats en sauce... Et c'est très dur de garder. Je ne peux pas le couper maintenant, je suis désolé, parce que je dois survivre au service. On a plus de 40 personnes qui viennent tous les soirs, et si je ne peux pas, et je suis obligé d'en garder un petit peu. Mais je dois en avoir quelques petits bouts là en cuisine, je pourrais vous l'amener. Mais moi je voulais juste parler de ce produit, parce que c'est un des produits les plus frais qu'on nous amène tous les jours, et voilà, et elle mérite qu'on parle d'elle à Marseille. Voilà.
Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan. Alors je le prends, et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. Je ne le souffle pas, parce qu'il ne faut pas le souffler, il faut l'attendre. Et on est là. Ah, ça y est. Alors vous voyez, je commence déjà à voir de la graisse plein la figure, c'est ça qui n'est pas joli. Alors on est là. Là, après je mets mon doigt. C'est chaud. Il me tarde de déguster.
Radio Grenouille, toujours en direct du 25 rue de la République pour parler agriculture et alimentation et surtout produits. Alors on a parlé du produit, de l'emballage, du marketing ou pas, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot. Philippe, vous racontiez que les clients des AMAP veulent souvent, finalement s'en fichent un peu de savoir le contenant, ils s'intéressaient plus au produit. Mais j'aimerais qu'on parle un peu du public justement, de c'est la question qui souvent revient, voilà, le public un peu bobo, c'est souvent plus cher. Donc là on est tous autour de la table... conscient de ces enjeux, mais finalement, est-ce que c'est vraiment...
D'abord, on n'a pas de clients. Nos adhérents sont des consomme-acteurs. Donc on insiste bien sur le terme consomme-acteurs, parce que non seulement ils consomment effectivement les produits qu'ils dégustent chaque semaine, mais ils sont acteurs de tout ce système d'AMAP. Il y a une solidarité avec le maraîcher, donc c'est vraiment très important de les appeler des consomme-acteurs. Donc... la question c'était quoi? C'est quel genre de public, à quel genre de public on s'adresse? Mais c'est un public très varié. On a des étudiants alumni, on a des familles de deux personnes, d'une personne, de quatre personnes. Donc on a un public très très varié. On a 30 paniers qui sont distribués sur tout Marseille. Donc en fonction des endroits dans lesquels on se trouve, on fait appel. Il y a un public donc très divers selon les quartiers dans lesquels on se trouve en fait. Hein.
Quand je parlais du prix, Laure, je vous voyais justement. Dis un nom de la tête.
Oui, et le prix, bon, je laisse la parole à Laure si elle veut la prendre. Mais effectivement, on a fait une étude il y a quelques temps qui montre que quand on achète des produits bio en AMAP, ben les produits sont moins chers que si on les achetait au supermarché, si on les achetait... Il n'y a pas de marge chez nous, en fait. Hein. C'est directement du maraîcher au consommateur. Donc, il n'y a pas du tout de marge entre les deux. C'est-à-dire l'échec que nous font nos consommateurs... ils font directement aux producteurs, directement aux maraîchers. Donc il y a zéro marge. Donc effectivement, les prix sont... C'est pas plus cher de manger... C'est même moins cher de manger bio et local au travers d'un système d'AMAP, comme le système que l'on propose. Quoi.
Alors, tu voulais réagir peut-être sur le prix?
Oui, enfin, il y a... Ce que dit Philippe est tout à fait exact. Et après, il y a un autre aspect des choses, me semble-t-il, c'est que... consacrer une part conséquente de son budget mensuel à l'alimentation ou aux petits plaisirs gastronomiques, ça me semble pas non plus être une idée complètement déconnante en soi. Et que parfois, nous, on nous fait la remarque, avec un petit peu de critique dans le fond de la voix, que nos bières sont relativement onéreuses par rapport à une bière industrielle et que c'est pas pour tout le monde. Moi, j'aime à penser que quelqu'un qui a des moyens limités choisit aussi ce qu'il consomme et qui va peut-être boire qu'une bière, mais qu'elle sera bonne, au lieu d'en boire deux qui seront insipides. Et c'est quand même une réflexion qu'on peut aussi avoir, de savoir qu'est-ce qu'on consomme, à quoi on alloue ses ressources mensuelles.
Là, on a, c'est vrai qu'on a très vite allé, disons... de la question des clients ou de la question du côté du prix, non? Mais... il est vrai que peut-être on est sorti, non, ou on commence peut-être à sortir, non, d'une époque où il y avait cette idée qu'on pouvait manger à pas cher, non, que l'idée un peu de cette industrie, de cette agro-industrie, non, qui allait nourrir tout le monde, enfin à pas cher, que ça, c'était fini comme ça, la question de manger n'était plus une question, non, que c'était quelque chose où on pouvait commencer à construire des voitures ou à construire des immeubles ou des tours Eiffel ou je sais pas, ou des fusées, non, et que c'était plus la question de l'alimentaire, non. Et j'ai le sentiment que en fait finalement c'est ça qui revient d'un seul coup comme un refoulé, non, d'un seul coup la question alimentaire elle revient comme quelque chose qui n'est pas réglé, comme quelque chose qui a effectivement un coût, non, comme quelque chose qui... Peut-être, Jean-Christophe, non, tu peux peut-être nous dire un peu quelques mots là sur ce projet alimentaire territorial, non, comme prenant en charge en fait cette question de la question alimentaire qui revient, mais à une échelle qui n'est plus uniquement une échelle de gens qui sont, disons, sensibles à, mais qui vise véritablement, finalement, de... Je ne sais pas si c'est de concurrencer l'industrie, mais en tout cas... d'avoir une pensée à l'échelle d'un territoire, non ?
Et notamment dans les cantines, par exemple.
Alors, c'est vrai qu'effectivement, la question du territoire est importante parce que c'est dans notre territoire qu'on peut déjà commencer à changer le monde. Penser global, agir local, et voir manger local. Donc du coup, par rapport à ça, c'est sûr qu'il est vraiment important de prendre conscience que, suite à la guerre, au rationnement, la politique agricole commune, donc, qui a été mise en place par l'Europe, a cherché vraiment à développer une alimentation de masse, produit par une agriculture extrêmement massive, extrêmement industrialisée, intensive, et en recherchant à abaisser systématiquement le coût de production et du coup le prix des aliments. Et on est rentré dans une logique qui était quelque part, je pense, une réaction au rationnement, au manque, voilà, de rechercher l'opulence pour un coût qui n'avait plus de sens et qui n'était plus en adéquation avec la réalité de ce qu'est effectivement l'acte de production alimentaire. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer dans le regard qu'a la société parce que le monde agricole est dans une telle détresse économique, dans une telle accélération quant à la disparition du monde paysan, qu'on est en train de prendre conscience qu'effectivement, si on continue sur cette voie, on va totalement éradiquer le monde agricole. On n'aura plus que des grandes industries, des grandes exploitations capitalistiques qui vont nous nourrir et qu'on va du coup se retrouver dans des situations de dépendance alimentaire vis-à-vis d'opérateurs économiques très dangereuses. Monsanto est un petit peu l'épouvantail en fait qui dans cette agro-industrie fait le plus peur aux citoyens.
Oui, parce que paradoxalement on a rempli les ventres en ruinant les agriculteurs.
Et en plus en remplissant les ventres d'une manière qui n'est pas satisfaisante,
ouais, c'est ça, on a
et
mal,
au travers
on a
d'une
mal
agriculture.
Rempli les ventres en plus.
Tout à fait, on les a mal remplis et on a mal quelque part rempli le contrat avec la nature nourricière au travers effectivement d'une agriculture extrêmement polluante et qui génère des gaz à effet de serre extrêmement problématiques. Les gaz à effet de serre, c'est pour 30 à 40% liés à l'alimentation au niveau mondial. Donc effectivement, il faut qu'on revoie la copie. Et par rapport à ça, le territoire est très important. La restauration scolaire est un levier très important aussi aux mains des communes notamment. Donc on peut repenser notre système alimentaire par le territoire en arrêtant effectivement d'urbaniser ce territoire, en préservant les terres agricoles, et ça c'est aussi les communes qui en ont le pouvoir, elles ont la compétence urbanisme, et donc on a grand espoir dans le fait que le projet alimentaire territorial des Bouches-du-Rhône qui est en train de se mettre en place, porté à la fois par la métropole Aix-Marseille-Provence et par le Pays d'Arles étant le ventre de Marseille, étant le grenier du département et la métropole étant le ventre du département et Marseille en première ligne, eh bien effectivement, on a là un écosystème totalement cohérent à construire au niveau de ce territoire.
C'est-à-dire que là, tu parles véritablement au fond d'une politique agricole, qui ne soit pas la politique agricole commune, mais tout de même d'une politique agricole.
La politique agricole locale. Et elle peut être commune dans le local, elle n'est pas obligée d'être commune au travers de l'européen. Heureusement.
Et en même temps, on voit que le local et le bio, par exemple, deviennent aussi une part de marché presque, même dans un système qu'on pourrait critiquer, qui est celui de la grande distribution. Comment on fait pour que ça se généralise et que ça sorte aussi de ce système-là qui peut être critiquable ? Que ça ne devienne pas qu'une part de marché ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une appétence pour tout ce qui est bio, par exemple. Je veux dire, les gens sont quand même conscients que lorsqu'ils vont acheter un fruit ou un légume dans un supermarché, il est rempli de pesticides et il est mauvais pour leur santé. Donc de plus en plus, il y a quand même cette conscience qui existe maintenant et qui se développe de plus en plus. Et les gens se rendent compte que pour nourrir notamment leurs enfants, je veux dire, il faut vraiment qu'ils choisissent des produits qui sont consommables, qui ne sont pas des poisons pour l'organisme.
Et dans cette idée aussi d'une politique agricole locale, non, et dans le fait de considérer que ça a un coût que de s'alimenter, que de produire des aliments et puis de les distribuer, de s'alimenter, enfin tout ça a un coût, non. Je me dis, bon, c'est un peu comme, je sais pas, à un moment donné, on réfléchit à une politique culturelle, non, et qu'on avait considéré qu'il y avait là un secteur qui était considéré comme pas rentable. Non rentable économiquement et sur lequel il y avait une politique d'aide, une politique de subvention, d'accompagnement, d'aide à la création. Non, on pourrait imaginer que finalement, il pourrait y avoir aussi cette chose-là. C'est de se dire, est-ce que l'agriculture, c'est rentable en fait ? Peut-être pas en fait. Peut-être que c'est pas rentable l'agriculture. Peut-être qu'il faut sortir de cette idée-là que se nourrir, c'est rentable finalement. C'est bizarre finalement comme idée. D'où que ça vient cette idée que se nourrir, c'est rentable ? Tiens.
Non, si tu veux, je prends juste une seconde la parole. Rentable, je ne sais pas si c'est rentable, mais enfin, par exemple, le système des AMAP permet quand même à un maraîcher, à des agriculteurs, donc de vivre correctement de leur métier. Hein.
Non, mais je suis d'accord. Sauf que
sans subvention, sans.
Mais le système de l'AMAP, c'est bien un système de solidarité. C'est bien, c'est comme la sécurité sociale, quoi. C'est-à-dire, il y a une solidarité entre le paysan et celui qui va manger. Bon, c'est une sécurité sociale.
Mais donc c'est pour le maraîcher qui met en place ce système-là. Pour lui, c'est pas rentable. J'aime pas trop ce terme-là, mais enfin, ça lui permet de vivre de son métier.
Mais c'est bien autre chose que la rentabilité d'un paysan qui est seul face à des consommateurs. Voilà, ça m'interpelle au fond, finalement. Est-ce que c'est pas la question de sortir finalement l'agriculture du marché au fond?
Alors, ce qui est évident, c'est que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, par exemple, si on reprend l'actualité, l'entrée en vigueur du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, parmi d'autres traités de libre-échange qui sont en train de se mettre en place ou qui l'ont déjà été, effectivement, sont en train de flinguer clairement les agricultures. Surtout les agricultures paysannes des différents territoires qui sont concernés par ces traités de libre-échange. C'est-à-dire qu'on met en concurrence des agriculteurs autour de toute la planète au travers d'une mondialisation qui s'organise autour de l'ouverture libérale des marchés. Les marchés sont totalement, voilà, ils sont ouverts aux quatre vents. Et effectivement, on est en train de mettre les agriculteurs dans une situation extrêmement périlleuse face à cette agriculture de capitaux extrêmement concentrée dont je parlais tout à l'heure. Je crois qu'il y a un élément qui est fort, qui est important, c'est qu'on voit que quand on remet en place des filières courtes, des filières qui ont du sens, où on rapproche effectivement le consommateur, qui devient même un consommateur, du producteur, et qu'on permet effectivement que le partage de la valeur produite par cette alimentation soit équitablement partagé, on a la possibilité de pérenniser une agriculture locale. Et notamment les AMAP qui se sont développées, donc les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne qui se sont développées à partir de 2001 en France, à partir notamment d'Aubagne, c'est chez nous, ont montré que ce modèle de circuit court, parmi d'autres, était une façon de pérenniser une agriculture qui ait du sens et qui produise une alimentation de qualité. Donc je crois qu'il faut revoir quelque part le modèle de masse qui passe par la grande distribution avec toutes les dérives que ça engendre et de voir comment est-ce qu'on propose des alternatives et que ces alternatives puissent se décliner à plus grande échelle parce qu'effectivement, comme tu le soulevais tout à l'heure, Margot, comment est-ce qu'on peut aussi faire en sorte que tout ça se développe de manière plus large dans la société, que les usages changent au niveau d'une échelle plus conséquente. Eh bien, effectivement, je crois qu'il va falloir amener aussi les acteurs qui aujourd'hui dominent le marché et qui le gèrent à leur profit à accepter de partager cette richesse. Et nous, on y travaille notamment au travers d'un projet de label à la fois local, biologique et équitable qui nous paraît fondamental pour que le consommateur, le consommateur devienne effectivement beaucoup plus regardant sur la pratique du distributeur qui le nourrit et auprès de quel il s'approvisionne.
Employer le mot consommateur, non, passer du consommateur à consommateur. Bon, juste peut-être, faut me dire là, Philippe et Jean-Christophe, en quoi c'est pas juste un slogan votre histoire là?
Ah ben non, c'est pas du tout un slogan parce que nos adhérents, les adhérents des Paniers Marseillais sont vraiment acteurs de ils ont la possibilité, enfin ils vont d'ailleurs visiter la ferme, il y a un contrat qui existe avec le maraîcher, ils sont complètement solidaires de ce maraîcher, ils sont pas juste tiens je vais prendre des légumes au supermarché, ils sont vraiment complètement acteurs de ce système de distribution, ils sont complètement partenaires et donc acteurs de ce système de distribution complètement.
Et pour répondre aussi par rapport à effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure, à chaque fois que je remplis mon assiette, à chaque fois que je remplis mon ventre, à chaque fois que je mange, je change le monde. Et je change d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que si, par exemple, je vais faire le choix de manger un poulet qui a été élevé en batterie, dans des conditions à la fois pour l'animal lui-même, pour la personne qui le produit, pour l'environnement qui est autour et pour moi-même qui l'ingère, qui va effectivement avoir un certain nombre d'impacts négatifs qui sont conséquents. Si je fais le choix d'aller manger plutôt une volaille fermière qui a grandi et gambadé au milieu d'une prairie avec un système effectivement d'élevage qui est beaucoup plus ancré avec les réalités naturelles, je vais faire le choix d'un autre monde et je vais construire un autre monde au travers de cet acte-là. Donc, il y a un acte, donc c'est effectivement un acte de consommation.
Oui, alors, bon, je vais encore un petit peu insister, quand même. Parce qu'au fond, je me demande, à t'entendre, tu dis tout acte, enfin, il y a un moment donné, c'est le mot consommateur, en fait, qui disparaît dans vos réponses. C'est-à-dire que, finalement, vous mettez tellement en avant l'acte que c'est le mot consommation, non, qui disparaît. Donc pourquoi garder consommation encore ? Pourquoi c'est, pourquoi il y a encore cette consommation alors que finalement c'est peut-être elle qui nous détruit, et ainsi de suite ? Il y a pas longtemps sur Radio Grenouille, il y a quelques jours, on entendait des boulangers italiens qui en fait nous expliquaient que la question de vendre du pain, c'est une question aberrante, puisque avant en fait, le boulanger c'était quelqu'un qui avait un four qu'il mettait à disposition des gens qui venaient avec leur farine faire le pain. Ils se pensaient pas comme consommateurs. Voyez, donc c'est juste, j'ai encore du mal avec cette contraction d'un ancien monde, finalement le monde de l'industrie, le monde de l'après-guerre, comme tu le disais, qui est le monde de la consommation, et un monde qu'on rêve là, ou que vous rêvez, hein, je sais pas, ou un monde qu'on veut, qu'on désire, qui est le monde où en fait on retrouve des moyens d'action, mais on est encore dans une transition, et donc d'où cette contraction consomme-acteur, quoi. Et j'ai l'impression qu'on bloque dans une transition, et que ce mot-là finalement exprime une phase un peu indécise entre un monde qui est là et un monde qu'on veut, quoi. Bon.
Non, moi je pense pas qu'il y ait contradiction, et je pense qu'il y a effectivement évolution, consommation, on consomme effectivement des produits, mais on est complètement acteur, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, il y a quand même choisir ce qu'on va manger, choisir de manger du local, choisir de manger du bio, c'est ce qu'on disait un peu en introduction, c'est un acte politique. Le manger, c'est un acte vraiment politique. Donc on ne peut pas dire on consomme nos produits. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'on y accole ce terme d'acteur. C'est complètement indispensable.
Mais on ne peut pas s'en débarrasser du mot de consommation.
Non, mais si on me dit juste on est acteur, ça ne marche pas non plus. Parce que c'est vrai que les produits, on les mange. Quand on les savoure, on les déguste. Donc on les consomme quand même. Donc on ne peut pas faire l'économie de cette partie du mot. Donc c'est pour ça qu'on a choisi un peu, c'est peut-être un petit peu un jeu de mots, mais pour nous c'est fondamental, ce mot de consommateur est fondamental dans notre organisation.
Jean-Christophe ?
Bon, moi je dirais d'une part qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, voilà, mais en même temps les mots ont leur sens et ont leur impact. Ouais. Il est certain que le fait qu'on soit sur cette terminologie-là du consommateur montre qu'on est à mi-chemin, on est au milieu du gué, qu'on n'a pas encore revu le logiciel en profondeur, mais qu'on est en train effectivement de trouver des nouveaux programmes qui vont nous permettre d'eux. Et donc c'est pas un monde qu'on rêve, c'est un monde qu'on construit déjà, qui a déjà une réalité, mais qui n'a pas encore une réalité dominante, qui reste plutôt dans une réalité émergente. Et peut-être, pour répondre à ta question et quelque part aller au-delà de la question et proposer une réponse, peut-être que demain, on ne parlera plus de consommateur, mais de dégustateur, par exemple, ou qu'il y aura d'autres termes qui viendront, et tant mieux. En tout cas, ça montre qu'il y a un processus qui est en cours, et je pense que c'est important et qu'il faut l'alimenter, dans tous les sens du terme.
Non, parce que ce n'est pas sans lien avec l'histoire de la séparation entre le producteur et le consommateur, non, n'est-ce pas ? Pendant très longtemps, les paysans, non, faisaient de l'autoconsommation, n'est-ce pas ? Ils produisaient et ils mangeaient ce qu'ils produisaient. Le problème avec l'industrie agroalimentaire, c'est qu'on a dépossédé les paysans de pouvoir se nourrir, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a des situations où aujourd'hui, on a des grands paysans qui, en fait, produisent et ils vont au Carrefour acheter ce qu'ils consomment. Quoi.
Oui, et puis ils ne veulent même pas manger leurs propres produits parce qu'ils sont complètement toxiques et ils ne veulent même pas manger leurs propres produits.
Hein. Et c'est cela que se joue cette séparation entre producteur et consommateur de l'autre. Mais c'est une construction sociale. Cette séparation qui est liée à la division du travail, finalement, quoi. Entre d'un côté celui qui produit, puis de l'autre côté celui qui consomme. Mais les agriculteurs avec ceux vous travaillez sur les AMAP consomment leurs produits.
Bien entendu, ils consomment leurs produits. Parce qu'ils connaissent leurs produits, ils connaissent leur qualité nutritive, ils savent qu'ils ne mettent pas de produits chimiques, ils savent que ce sont de bons produits. Bien entendu, ils consomment leurs produits. Et ils sont autosuffisants par rapport à leur propre alimentation, effectivement. Quoi. Ils sont presque en autonomie par rapport à leurs besoins alimentaires, effectivement. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'industrie alimentaire classique.
Les autres consommateurs, enfin les autres, pardon, producteurs aussi consomment les produits produits par les autres producteurs. Cette phrase est affreuse et peu compréhensible peut-être, mais bon, on troque à la fin des marchés, ça devient beaucoup plus concret comme ça. Et pour revenir sur la question consommateur, il y a quelque chose de très pratique aussi, il y a un échange d'argent entre celui qui produit et celui qui acquiert la marchandise, enfin, l'objet qui va être l'aliment, la boisson, qui va être par la suite mangé. Et donc c'est de là qu'aussi vient la consommation. Après, si on veut remettre en cause le fait d'être dans une économie marchande, pourquoi pas ? C'est extrêmement intéressant, mais je pense que tant qu'il y aura besoin d'échanger de l'argent pour avoir à manger, on restera dans un système de consommation.
Mais dans l'agriculture, enfin sur la question, je rebondis encore sur le projet d'alimentation territoriale, c'est ça, hein ?
Alimentaire territorial.
Le projet alimentaire territorial. Je me demandais aussi dans quelle mesure la question de l'agriculture, non, la question des aliments, devient en fait une question des communs. C'est-à-dire devient une question commune et que d'un seul coup, ça devient un commun. Et non plus la question de l'agriculteur et comment on vient en aide à l'agriculteur, l'agriculteur avec son terrain, sa propriété et combien on est solidaire avec lui. C'est la question des AMAP, non ? Mais comment en fait la question de l'agriculture et donc du terrain agricole lui-même, non, devient une question commune et que d'un seul coup n'est plus que la propriété de l'agriculteur qui désire ou pas, avec des aides ou pas, passer à une transition et à une agriculture biologique et ainsi de suite, non ?
Par rapport effectivement au projet alimentaire territorial, cette question du commun, elle intervient à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs axes dans ce projet alimentaire territorial. Il y a déjà l'axe économique. Et effectivement, la question de l'économie et finalement du travail, de l'emploi, je préfère le terme de travail, en tout cas le fait de trouver une utilité dans le monde où on vit au travers d'une activité qui nous permet aussi de nous rémunérer, de manger à la fin du mois, de vivre, c'est un des enjeux effectivement du projet alimentaire territorial. Donc ça, il y a une dimension effectivement qui touche à la question du commun. Il y a un autre aspect qui est intéressant aussi dans les orientations, les axes qui sont pris par ce projet alimentaire territorial, qui sont proposés, c'est la question de la culture. C'est vrai que ça aussi, c'est un de nos communs. La façon dont on a développé toute une gastronomie, par exemple, au sein de notre territoire, au sein de notre terroir. Donc, quelque part, ce qui fait notre identité, c'est aussi les communs. Et donc, ça, c'est aussi un élément qui sera mis en avant, et en tout cas, qui est proposé par la métropole qui porte ce projet. Et puis, il y a encore un dernier point qui est essentiel, c'est la question du foncier agricole, c'est-à-dire de la terre. Et ça, effectivement, ce sont un de nos communs, c'est un des biens les plus vitaux dont on dispose et dont on a besoin pour vivre, avec l'eau et l'air. Et le fait que les politiques d'urbanisme des communes soient beaucoup plus protectrices des terres agricoles et donc de ce commun précieux est aussi un des axes sur lesquels on a besoin de pousser au maximum.
Et du coup, vous espérez pousser sur les politiques eux-mêmes ?
Alors, on a déjà poussé sur les politiques, on a déjà pesé sur eux de façon effectivement la plus incitative possible pour qu'ils mettent en place ce projet alimentaire territorial au niveau des Bouches-du-Rhône. On l'avait proposé au départ au niveau de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a effectivement d'un côté le grenier et de l'autre le ventre, donc le Pays d'Arles avait aussi toute sa place. Et donc on a proposé à ces deux territoires de se rassembler dans cette dynamique d'échelle départementale et également au département qui a soutenu aussi cette idée de le décliner à l'échelle départementale. Et à la finale, pour la première fois en France, on va avoir donc un projet alimentaire territorial porté par 121 communes, la totalité des communes du département plus deux, hein, puisqu'il y en a une dans le Vaucluse et une qui est dans le Var. Et ça, effectivement, depuis que le projet alimentaire territorial, les projets alimentaires, les PAT, comme on dit, ont été mis en place par la loi d'avenir de 2014, hein, la loi d'avenir alimentaire, c'est la première fois qu'il y a cette échelle et cette implication aussi forte, ce portage aussi unanime de l'ensemble des communes d'un département. Donc pour nous, c'est très important.
Mais cette PAT, ce projet alimentaire territorial, est articulé avec les SAMAP ? Le réseau d'AMAP de 1500 personnes ?
Non, mais bien entendu, on est complètement concerné, complètement intéressé par ce produit et complètement partie prenante aussi de ce projet-là, évidemment. Quoi. Parce que nous aussi, on a besoin... aujourd'hui, on nourrit, entre guillemets, 1400 familles. Mais l'objectif, c'est d'en nourrir beaucoup plus. Et c'est d'avoir, pour en nourrir beaucoup plus, il faut qu'on ait plus de maraîchers. Et pour qu'il y ait plus de maraîchers, il faut qu'il y ait plus de terres agricoles. Et donc, évidemment, on est partie prenante de ce projet-là.
Tout à l'heure, on parlait, avant qu'on commence l'antenne, cette question un peu directe, savoir si à la MAP, il y avait des paniers pour ceux qui ne peuvent pas avoir de paniers.
Ben, c'est un grand projet des paniers marseillais, c'est de créer des paniers solidaires. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'un panier, ça coûte 15 euros à peu près. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens quand même qui n'ont pas les moyens de se payer ces 15 euros. Donc on veut créer des paniers solidaires qui seraient, entre guillemets, sponsorisés par des entreprises dans le terme de mécénat qui participeraient au coût de ce panier. Donc on pourrait distribuer des paniers, vendre des paniers solidaires à un prix inférieur à ces 15 euros de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier de ce manger bon, de ce manger sain qu'on distribue toutes les semaines.
Pourquoi faire appel à du mécénat privé ? Le réseau n'est pas suffisamment épais, dense, pour que ça soit en interne, que finalement, moi, je cotise pour, à l'échelle de 1 euro, que chacun mettant 1 euro pour un panier dans chaque AMAP qui peut...
Non mais tout à fait, c'est envisageable également qu'on puisse créer des paniers solidaires au sein même des paniers, oui. Des paniers marseillais. On pourrait très bien dire effectivement, vous achetez votre panier 15 euros mais vous le payez 30 et ça permet de créer un autre panier solidaire. Bon, pour l'instant, on a plusieurs pistes effectivement pour financer ces paniers solidaires. On privilégie la piste de l'entreprise parce que c'est une échelle qui est un peu différente, mais c'est une piste effectivement qui est intéressante aussi, complètement envisageable, c'est certain. Mais il faut que l'on crée de la solidarité, qui ne soit pas uniquement de la solidarité consommateur vis-à-vis du maraîcher, mais également consommateur et consommateur. C'est-à-dire que tout le monde puisse bien manger, sainement manger, etc., et qu'il n'y ait pas un obstacle majeur de prix.
Je pense que pour répondre aussi à la question que tu posais concernant les paniers marseillais en lien avec le projet alimentaire territorial, je crois que c'est très important que les acteurs de terrain, qui sont quelque part à la base de la créativité sociale, hein, la capacité à proposer des solutions nouvelles, telles que les paniers marseillais le sont, soient impliqués dans la mise en place de ce projet alimentaire territorial, parce qu'il ne s'agit pas que ce soit quelque chose de hors sol, de totalement descendant. Ça ne peut pas être porté que par les acteurs politiques, tant mieux que ça le soit. Nous, on est ravis que ça le soit. On les a vraiment invités à ça et ils ont répondu à l'invitation, ce qui est quand même remarquable de leur part. Il faut aussi que nous-mêmes, on soit le plus en capacité de pouvoir alimenter ce projet alimentaire, puisque c'est son objectif. Et par rapport au panier marseillais, c'est vrai qu'il y a deux choses que je souhaiterais mettre en avant. Il y a la dimension sociale que tu soulèves, le fait que ça soit accessible à tous. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un des axes, d'ailleurs, du projet alimentaire territorial, l'accessibilité alimentaire. Et les paniers marseillais travaillent là-dessus depuis longtemps. Et ils ont aussi beaucoup œuvré pour le développement, la mise en place notamment du collectif de défense des terres fertiles qu'on a monté donc en 2010 avec la Confédération paysanne, avec donc les paniers marseillais, le réseau des AMAP, Alliance Provence, ATAC, un certain nombre d'acteurs locaux. Voilà, et donc à l'époque c'était Monique Diano, à qui aussi je souhaite vraiment envoyer un clin d'œil, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui a fait énormément dans ces luttes. Et je pense que le fait d'avoir des gens qui, comme ça, des citoyens, qui prennent vraiment à bras le corps ces enjeux-là, est très important parce que c'est ce qui fait avancer les choses. Et si ça ne se passe qu'au niveau politique, ça ne peut pas créer ce qu'on attend, comme changement de modèle, comme changement de monde. Et si ça ne se passe qu'au niveau citoyen, non plus. Il faut qu'il y ait l'alliance des deux. Donc on a besoin de bosser ensemble.
On va essayer. On va s'écouter une petite chanson, Mount Kimby We Gum Together, puis après on va peut-être aborder le sujet de la gastronomie, parce qu'on est quand même dans un restaurant. au cœur du produit. Au cœur du produit et de la République, au 25 rue de la République, pardon. On est toujours tous ensemble pour parler du produit, de l'agriculture et de l'alimentation. Et on va parler gastronomie un peu.
Oui, on va parler gastronomie. On voulait en parler un petit peu avec Christian, mais Christian a dû s'absenter parce que depuis tout à l'heure, tout de même, on parle du fait qu'il y a de la vie, non ? Là, il y a prendre en compte la vie un petit peu. Et ben Christian est avec son enfant et voilà, il en prend soin un petit peu parce que son enfant, les enfants sont toujours plus agités que les adultes. Et donc voilà, il est parti faire un tour avec son enfant, il va revenir. Mais c'est ça aussi, c'est important de prendre en compte cela. Mais on peut quand même parler de gastronomie parce que moi j'ai une question un peu particulière liée aux AMAP. Parce que dans les AMAP, finalement, on a des fruits et des légumes... qui nous arrive et des fois ça ressemble à des choses bizarres, on ne sait pas trop ce que c'est. Et j'imagine qu'avec les AMAP, finalement, se redécouvrent de nouveaux plats. C'est toute une cuisine qui ressurgit, non, avec les AMAP.
C'est souvent ça qui est intéressant parce que bon, les légumes d'été, c'est assez facile parce qu'on a des tomates, il y a des courgettes, il y a des aubergines, tout le monde se fait la ratatouille, il n'y a pas de problème. L'hiver, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des trucs un peu bizarres qui nous sortent. Il y a des fois, il y a des topinambours. Qu'est-ce qu'on fait des topinambours ? Il y a des choux chinois, il y a des choux. Il y a beaucoup de choux, il y a beaucoup d'espèces différentes de choux, mais qu'est-ce qu'on fait des salsifis ? Moi, quand j'étais gamin, on avait des salsifis. Mais aujourd'hui, qui sait quoi faire des salsifis, quoi. Donc, effectivement, il y a des tas de produits, on ne sait pas quoi en faire. Donc, il faut un peu réapprendre à faire la cuisine. Et c'est une dimension qui est importante, qui est sociale aussi. C'est bien de faire la cuisine. Je veux dire, on se remet ou en famille ou tout seul, enfin, à réapprendre à utiliser des produits qu'on a, des produits zut. J'utilise sur ce mot, c'est difficile de s'en débarrasser.
Des aliments.
Des aliments auxquels on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à les cuisiner.
Toi, par exemple, Philippe, quel plat tu as été amené à faire du fait des AMAP, finalement. Est-ce que toi, le fait d'être en AMAP a changé ta gastronomie ?
Écoute, il y a une solution de facilité. Quand tu ne sais pas quoi faire de tous les légumes d'hiver, tu en fais une grande soupe et c'est toujours extraordinaire. Ouais.
Non, mais c'est vrai, la soupe. Ouais. Jean-Christophe.
Alors moi, en matière de gastronomie, j'adore déguster. Après, c'est vrai que côté cuisine, je suis assez basique. Mais ce qui est certain, c'est que le fait de pouvoir sublimer ce qu'on va manger au travers de tout l'amour qu'on donne, hein, parce qu'en fait c'est de l'amour quand on fait de la cuisine, c'est quand même de l'amour qu'on apporte à la fois à l'aliment et à la personne qui va le manger. Et des fois on se dit tout cet amour a pris tellement de temps et s'est ingurgité en quelques secondes, mais bon, c'est fait pour. Et je pense qu'effectivement le côté gastronomique, même si je le pratique pas tellement personnellement parce que je ne suis pas son cordon bleu, malgré tout je trouve que c'est vraiment important. À la fois pour le plaisir qu'on a de manger et aussi pour le plaisir qu'on a de partager. Et cuisiner, c'est partager.
Laure ?
Moi, j'ai redécouvert la betterave pour répondre à la question initiale, que je ne pensais ne pas aimer à cause de la cantine, comme un petit peu des millions de personnes, j'imagine. Et voilà, j'ai appris à la recuisiner. Et l'intéressant aussi dans le fait d'avoir un panier, de l'ouvrir et de découvrir des légumes dont on ne connaît pas le nom et encore moins les modes de cuisson, de se confronter à quelque chose de différent, à une nouveauté, et de sortir un petit peu de sa zone de confort et de se dire, allez, zoom, j'essaye, à la poêle, au four, à la casserole, à l'eau, je ne sais pas.
Et là, par exemple, des copains, sa mère. En ce moment-là, fin septembre, il y a quoi dans ton panier ?
Là, on est sur la fin de l'été, donc il y a encore des légumes d'été, il y a encore des tomates, il y a encore des courgettes, il y a encore des... Tous ces légumes existent encore, mais on commence déjà à avoir de la courge. Alors la courge potimarron, ça fait des soupes absolument extraordinaires. Hein. Donc on entre déjà dans la période d'hiver où il commence à y avoir un peu ces légumes moins ratatouilles que les légumes d'été, quoi.
On en parlait avant de commencer l'émission, mais votre idée, c'est aussi de donner des cours de cuisine en plus des paniers.
Donc ça, c'est une idée qui correspondrait au développement des paniers solidaires. C'est vrai que tout le monde ne sait pas quoi faire de tous ces légumes, surtout des légumes d'hiver ou des légumes inconnus. On ne sait pas tous quoi faire de ces topinambours et autres salsifis et choux chinois. Donc c'est vrai que lorsqu'on va créer les paniers solidaires, on va certainement y associer des cours de cuisine pour savoir quoi faire de tous ces légumes, quoi.
Pas forcément que pour les paniers solidaires, d'ailleurs, on en parle.
Non, non, ça pourra effectivement être ouvert à tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est important. On est là tous autour de la table, on se demande bien qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces légumes.
Hein. Mais oui, Jean-Christophe me disait qu'il n'était pas très cordon bleu, donc c'est que lui aussi, il ne sait pas forcément très bien comme moi comment marier un certain nombre de légumes qui arrivent sur la table. Au fond, peut-être que la question aussi, dans la gastronomie, moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Non, il y a la question du repas. Enfin, il y a la question de faire la cuisine, n'est-ce pas ? Donc, qui est la question peut-être du partage, où c'est bien si on arrive à quelque chose de sympa à manger. Des fois, on n'y arrive pas, mais il y a eu un moment où, en fait, il y a eu le partage de le faire ensemble. Ça, c'est une chose aussi, faire ensemble à manger, non ? Et puis, il y a effectivement le temps du repas, qui est un autre temps aussi, qui est le temps du partage de ce qui a été fait, préparé. Je me demandais comment dans le projet... dans le projet alimentaire territorial, comment les restaurants sont impliqués dans ce projet ? Est-ce qu'il y a des restaurants impliqués, des restaurants à Marseille, hein, impliqués dans le projet alimentaire territorial ?
Pour l'instant, dans la mesure où le projet alimentaire territorial est vraiment en train de se mettre en place, puisque quelque part le coup d'envoi n'a pas encore été lancé. Hein. La décision politique a été prise il y a un an, c'était le 17 octobre, à l'unanimité du Conseil métropolitain. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif. Et je pense que c'est important de noter. La totalité des élus se sont prononcés pour. Et au niveau du Pays d'Arles, il en a été de même. Là, actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est que les services de la métropole sont en train d'organiser, quelque part, tout le travail de construction du projet, tout le travail de concertation. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment démarré. Ça devrait démarrer en 2018. Il y a 36 mois, donc 3 années de période de diagnostic qui sont prévues pour vraiment faire un travail de fond sur, justement, quels sont les acteurs du territoire, comment est-ce que... ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils interagissent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut quelque part ensemble interagir de manière encore beaucoup plus dense, beaucoup plus productive en matière de transition alimentaire. Et donc forcément, les acteurs, les restaurateurs, les cuisiniers, auront un rôle important à jouer, que ce soit dans la restauration privée ou dans la restauration collective. Même Sodexo, qui peut être apparenté à une grosse structure, une grosse firme internationale, peu sensible à ces sujets-là, aura son rôle à jouer là-dedans. Il faudra qu'elle ait un rôle à jouer, y compris la grande distribution. Donc du coup, on essaye de voir comment l'ensemble des acteurs qui constituent la filière, et notamment nous-mêmes en tant que mangeurs, si c'est un terme, ou que dégustateurs, on soit aussi autour de la table. Il faut qu'on se mette tous autour de la table, on en a besoin.
Non, parce que là, quand tu parlais des chefs cuisiniers, moi, j'entends aussi... je me demande, par exemple, la dimension artistique, non, qu'il y a dans chez les chefs cuisiniers, non, dans la question aussi de la gastronomie, et là où elle s'invente aussi... Il y a une dimension artistique. Je me demandais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas finalement dans ce projet alimentaire territorial, alors mais tel que je l'entends là, finalement encore quelque chose qui a à voir d'une politique territoriale telle que on peut imaginer ce que c'est qu'une politique territoriale, et au fond l'absence de partenaires qui peuvent paraître très éloignés de ces histoires-là, très pragmatiques, concrètes, que sont les artistes. Notamment les artistes cuisiniers, au fond. Et comment la présence des artistes cuisiniers aurait pu, finalement, aussi se dire la gastronomie n'est pas un élément second, mais elle est un élément à part entière de la question. Et que le chef cuisinier peut peut-être avoir à discuter avec un agriculteur, qui peut peut-être avoir à discuter avec le réseau de la MAP, et ainsi de suite, quoi.
C'est un élément qui est effectivement fondamental, la dimension artistique, la dimension créative. La dimension fantaisiste aussi, elle est vraiment très importante par rapport à la question alimentaire. Dans le projet alimentaire territorial des Bouches-du-Rhône, il y a notamment, comme je disais tout à l'heure, parmi les 5 axes, la question effectivement, la dimension culturelle et gastronomique qui est envisagée. Je pense que c'est vraiment c'est essentiel qu'il y ait une dimension de plaisir, une dimension aussi de fierté, une dimension d'identité que ça met en avant. C'est vrai que nous, on a la diète méditerranéenne et que c'est une diète qui est reconnue comme extrêmement saine par les professionnels de la santé. Donc, c'est un élément qui, effectivement, se reboucle avec les aspects de nutrition qui sont aussi mis en avant. Mais cette dimension de plaisir, de créativité et d'approche artistique de l'alimentation et du tourisme qui va avec aussi, parce qu'il y a de la beauté qu'on donne à voir. Et donc, c'est ce qui fait aussi l'attractivité de notre territoire en termes de gastronomie et de paysage. Tout ça, c'est un tout, ça fait système.
Philippe, non, rien à ajouter, non.
Non, non, c'est vrai qu'on avait parlé de la dimension politique, mais c'est vrai que la dimension artistique du bien manger est absolument fondamentale. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Je me demandais aussi comment pouvait, parce qu'on parlait des fameux cours là, enfin, d'une je sais pas comment, si c'est des cours ou des formations, non, pour comment composer un plat avec des légumes dont on ne sait pas trop bien à quoi ils ressemblent. Non, je me demandais aussi comme la dimension du raté, de la cuisine qu'on rate, non, comment ça pouvait être intéressant sur un goût nouveau m'apparaît, non, c'est ça qui peut être au début un peu bizarre, mais qui fait que, ah, toi, t'as eu ça comme goût, tiens, moi, j'ai eu ça, des goûts un peu étranges comme ça.
Enfin, il y a quand même deux types de cuisine. T'as la cuisine au quotidien, où effectivement, t'es obligé de nourrir ta famille, donc tu vas pas trop te prendre la tête pour faire des trucs vraiment très compliqués. Et puis, t'as la cuisine un peu exceptionnelle, où t'invites des amis, et alors là, tu fais de la recherche. Et effectivement, le côté artistique doit rentrer en ligne de compte, quoi. Il faut arriver. On fait une création, hein. Quand on cuisine quelque chose avec des bons produits, on crée quelque chose. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus exagérer non plus. Au quotidien, quand tu es obligé de nourrir ta famille qui rentre de l'école, et voilà, et il faut faire vite, il faut faire bien, et il y a des devoirs à faire. C'est pas toujours créatif et c'est pas toujours artistique.
Alors malheureusement, il nous reste très peu de temps pour finir cette émission et Christian vient de nous rejoindre. On parlait justement de gastronomie et dimension artistique dans la cuisine et dans la gastronomie.
Mais d'en parler aussi, parce que Philippe, au fond, là, Philippe dit, bon, au quotidien, comment on fait au quotidien, est-ce qu'il y a la place? Au quotidien, est-ce qu'il y a vraiment la place là, pour l'invention, pour la création, pour... Parce que finalement, les AMAP, ça a à voir avec le quotidien. C'est avec le panier de l'AMAP, c'est nos aliments au quotidien, non? Et c'est notre cuisine au quotidien. Et on se demandait aussi comment on pouvait faire... comment les chefs cuisiniers ont leur mot à dire dans... le projet alimentaire territorial, dans une nouvelle manière de repenser le lien entre nous et l'agriculture. Bon, alors la gastronomie,
ouais,
au quotidien.
Pas si... Ouais, moi j'étais mis comme représentant de l'alliance des chefs du mouvement Slow Food en PACA. Et tout de suite, on a voulu réfléchir justement sur ce mot chef. Et on a décidé que c'était pas le bon terme et que du coup c'est devenu l'alliance des cuisiniers. Donc on essaye vraiment d'élargir ce champ de la cuisine, regrouper aussi du coup les associations. Il y a plein de projets qui existent sur Marseille, de cantines associatives, aussi de restaurants, etc., qui essayent de repenser toutes les questions qu'on se pose sur l'alimentation, l'accessibilité, le bon, le bien-être animal, je ne sais, ou même notre métier de cuisinier, hein, en soi, comment le repenser. Donc cette question de... Je ne suis pas sûr que les chefs ont toujours les solutions ou les clés de l'alimentation. Après, ils ont des savoir-faire, ils savent, mais pousser vers l'élitisme de la cuisine, c'est pas. Je pense qu'on peut déposséder. On peut déposséder les gens d'un savoir-faire, de choses qui sont d'une simplicité qu'on peut retrouver dans la cuisine méditerranéenne, retrouver la saisonnalité, les produits, et faire des très belles choses en peu de temps. Hein. Je me fais des pâtes avec, j'ai une bonne huile d'olive, je vais trouver des bonnes tomates, un pot de basilic, des produits de saison, et je me régale dessus. Hein. Il faut pas grand-chose pour produire une cuisine du quotidien. Surtout ici, je trouve qu'on a la chance d'avoir des producteurs, on a une façade maritime, il y a des belles choses. Et il y a une culture autour de la cuisine qui est populaire et qui a du goût. Et donc, je pense qu'il y a un très bon terroir pour, dans la cuisine familiale de Marseille et de la Provence. Donc...
une cuisine populaire et qui a du goût. On va peut-être se quitter avec ces mots, parce que c'est l'heure de se quitter malheureusement. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à cette émission, la dernière émission de Radio Grenouille, que vous pourrez retrouver d'ici demain sur le site de Radio Grenouille, comme les deux premières que nous avions organisées au 25 rue de la République. Juste un dernier mot pour vous dire que vendredi et samedi, deux soirées musicales auront lieu ici au 25 rue de la République avec Raph de l'émission Midi Steady Go. Et le temps de remercier également Sébastien Gély à la technique, les grandes tables et le Fonds épicurien Provence qui nous ont accueillis dans ce lieu. Et vous signaler aussi, peut-être que je vais laisser la parole à Philippe pour le mot de la fin, la 10e fête.
Faut pas oublier, oui, qu'on a la 10e fête des paniers marseillais, et ça c'est le dimanche 24 septembre de 12h à 19h au parc de la Mirabelle. On pourra poursuivre le débat qu'on a eu ce soir, et c'est très festif, on aura plein de trucs à manger, il y a des animations pour les jeunes, pour les enfants, c'est dimanche au parc de la Mirabelle. Merci.
Ben voilà, très bien. Merci beaucoup à tous et bonne soirée, et merci à toi, Emmanuel, pour ta présence. Bonne soirée.
Merci Marco.